Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'astronomie chinoise et la recherche au pôle Nord d'organismes inconnus. Jean-Marc Bonnet-Bideau, astrophysicien au CEA, va nous faire voyager dans le temps en Chine. Ce scientifique ne comprend pas pourquoi les observations du ciel faites au cours des 4 derniers millénaires dans l'Empire du Milieu sont pratiquement ignorées en Europe. Jean-Marc Bonnet-Bideau, la curiosité sans cesse en éveil sous son épaisse tignasse blanche, est un spécialiste de la mort des étoiles. Or, une étoile s'est éteinte de façon spectaculaire en l'an 1054. En Europe, c'est le Moyen-Âge et le phénomène passe inaperçu. Mais en Chine, des observateurs consignent méthodiquement ce qu'ils voient et ces travaux sont encore utiles aujourd'hui. Dans cette émission, Jean-Marc Bonnet-Bideau va nous raconter qui étaient ces astronomes brillants et pointilleux. Il va aussi nous parler de la première carte du ciel connue à ce jour, qu'il a fait sortir de l'oubli. Elle date du 7e siècle et elle est d'une précision étonnante. L'astronomie chinoise et la mort des étoiles, ce sera après la bioluminescence que des chercheurs du CNRS espèrent trouver dans les eaux du pôle Nord. Les expéditions Under the Pole ont été créées en 2007 pour découvrir le monde sous-marin des régions polaires. Samedi, dans moins d'une semaine, Guilin et Emmanuel Bardou partiront pour la 3e fois pour l'Arctique. Ils sont les chefs de l'expédition. Le biologiste du CNRS, Marcel Coquen, les rejoindra. Tous les trois sont maintenant avec nous.
Les Aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
Le départ est donc dans une semaine sur le Wai, un beau bateau en aluminium qui va partir pour un périple sur les mers du globe, destination pour commencer l'Arctique, avec à son bord Guilin et Emmanuel Bardou. Bonjour.
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 Et avec Marcel Coquen qui va rejoindre donc Guilin et Emmanuel, les initiateurs et les chefs des expéditions Under the Pole. Bonjour Marcel Coquen.
Bonjour.
Alors quelques mots sur ces expéditions audacieuse et scientifique. Guilin Bardou, que sont ces expéditions Under the Pole?
Alors, ce sont des expéditions d'exploration sous-marine tournées vers l'exploration scientifique et puis une innovation permanente dans le domaine de la plongée sous-marine à travers l'envie de toujours aller voir un petit peu plus loin, de repousser certaines limites.
Là, ce sera la 3e expédition. Elle durera 3 ans et vous allez commencer par l'Arctique et vous allez vous intéresser à la bioluminescence. Pourquoi ce sujet ?
Tout simplement parce que la bioluminescence et la biofluorescence en Arctique, c'est quelque chose de nouveau. Et nous, voilà, depuis 10 ans, on s'est fait une spécialité de la plongée polaire et aujourd'hui, on a envie de voir justement qu'en est-il de la question de la bioluminescence, de la question de la biofluorescence en Arctique.
Guilin et Emmanuel, vous êtes les chefs de cette expédition, mais Marcel Coquen, biologiste au CNRS, vous êtes la caution scientifique. Parlez-nous de la bioluminescence. En quoi c'est intéressant ?
C'est un système de communication pour les organismes. Ils vivent dans le noir et ils ont inventé la lumière pour se dire bonjour. Alors ça peut servir à attraper des proies ou à se défendre contre les prédateurs ou à juste communiquer avec ses copains.
Qu'est-ce que vous attendez de cette expédition ?
C'est un écosystème qui est très peu échantillonné, très peu étudié par les scientifiques, surtout pour la bioluminescence et pour la fluorescence naturelle. Donc j'ai l'espoir de pouvoir rencontrer des organismes inconnus pour pouvoir les récolter et les étudier.
Quelle différence entre bioluminescence et biofluorescence ?
La bioluminescence, c'est une protéine qui va chercher un substrat qui s'appelle la luciférine. Et avec un peu d'oxygène, ça fait un mélange et ça fait de la lumière. La biofluorescence, c'est un système purement physique. C'est une molécule qui, quand on lui met de la lumière, par exemple bleue dessus, elle va réémettre une autre couleur de lumière, du jaune, du vert, du rouge.
Le vert luisant qu'on connaît,
oui.
Il fait quoi ?
Le vert luisant, chez nous, il fait que de la bioluminescence. Il fait de la lumière avec une réaction enzymatique.
Et ces organismes marins que vous espérez découvrir en Arctique notamment, ce sont de gros organismes ou de petits organismes ? Ce sont des poissons ou ce sont de tout petits organismes ?
Ça peut être un peu tout. Il y a une vieille histoire que le très grand requin de Groenland, qui peut mesurer jusqu'à 7 mètres, serait peut-être lui-même bioluminescent. Donc, on va essayer de vérifier. Et pour le reste, on va aller avec un collègue jusqu'à la microalgue, dont on sait déjà qu'ils sont bioluminescents, et on va voir où ils sont et comment ils sont.
Guylain Bardou, c'est vous qui allez plonger ?
Je vais plonger, bien sûr, mais avec une équipe. On est plusieurs plongeurs à bord du bateau. Il y a des équipes de plongeurs qui sont capables de descendre assez profond. Et puis, voilà, c'est un travail main dans la main avec l'équipe de scientifiques en particulier. On va plonger à des profondeurs importantes. Et puis, à chaque fois qu'on remonte, voilà, on observe, on échantillonne. Et c'est vraiment une collaboration, c'est vraiment un travail main dans la main avec l'équipe scientifique. L'idée étant vraiment de pouvoir faire des découvertes.
Marcel Coquen, quel est l'intérêt de la bioluminescence ? Est-ce qu'il y a des applications ?
Il y a plein d'applications. Il y a ces protéines qui peuvent faire la lumière, ils peuvent servir à détecter quelque chose. Et comme on peut détecter la lumière très 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 sensiblement, on peut faire la moindre quantité de lumière, on peut la détecter. Donc on peut par exemple prendre une cellule, la rendre lumineuse, l'injecter dans une souris, et voir où elle va faire une tumeur sans ouvrir la souris. De l'extérieur, on peut voir où la tumeur se développe. Ce type d'application.
Donc ça peut aider à détecter des maladies.
Des maladies ou à développer des médicaments pour arrêter ce type de méfaits.
Guylain et Emmanuel Bardou, c'est comment en Arctique, sous l'eau, vous qui plongez tous les deux, qu'est-ce qu'on voit ?
Globalement, je dirais, ce qui est surprenant, c'est d'avoir autant de couleurs sous l'eau en comparaison à cette monochromie en surface, à tout ce blanc, et de se rendre compte que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas du tout un désert. Au contraire, c'est foisonnant de vie. Et voilà, et cette vie, elle attend d'être découverte et d'être mise en image. Et c'est ça qui nous passionne, Guylain et moi.
Lorsque vous plongez, j'imagine que vous êtes extrêmement équipé. L'eau frise les moins de degrés.
Oui, alors on est équipé évidemment de combinaisons étanches, hein, donc ça c'est la base et on est chaudement habillé dessous. Après, pour les plongées techniques profondes que réalise Guylain avec cette petite équipe qui plonge beaucoup plus profond, là on a mis au point en fait au fil du temps des combinaisons chauffantes, donc qui permettent de chauffer le corps, les mains, ils mettent des doubles cagoules, voilà, on se graisse le visage particulièrement, voilà, il y a des techniques pour essayer de repousser le temps dans ces eaux froides.
Guylain, c'est impressionnant.
Oui, c'est impressionnant, c'est difficile aussi, hein, parce que bon bah le froid, c'est pas vraiment un plaisir. Hein. En général, ça peut même être douloureux. Mais par contre, on a la chance, on a le privilège d'explorer des régions où tout est à faire, où tout est à voir. La plupart du temps, on est les premiers à aller voir ce qu'on va trouver sous l'eau dans ces régions. Donc ça, c'est extrêmement grisant et c'est formidable aujourd'hui pour moi, pour ma génération et puis pour celle à suivre, de savoir que il y a un champ d'exploration gigantesque à l'échelle de l'Arctique, à l'échelle de l'Antarctique et de son océan, où tout reste à faire.
Eh bien, bon voyage Guylain et Emmanuel Bardou, bon voyage Marcel Coquen, vous les rejoignez au mois de juillet, j'imagine que vous avez hâte. Hein.
Oh oui.
Et nous allons dans quelques minutes découvrir comment, au cours des 4 derniers millénaires, les astronomes chinois ont étudié le ciel. Leurs observations sont d'une précision qui épate les scientifiques.
It's growing all the time. I do myself a disservice to feel this weak, to be this nervous.
You say something loving. It's so overwhelming, the thrill of affection. Feels so unfamiliar. You say something loving.
beginning. Here come my insecurities. I almost expect you to leave.
Were you really looking for me? Try your best to reassure me. I was impatient to meet you. Am I too needy? Am I too eager?
I don't know what this is, but it doesn't feel wrong.
I don't know
what this is, but it doesn't feel wrong.
Did you hear me say it? Say it. Did you hear me say? I say something loving. I can't hold it inside. The thrill of affection is only getting stronger.
Say Something Loving, c'était de XX.
Fabienne Chauvière, Les Saventuriers sur France Inter.
Jean-Marc Bonnet-Bideau, spécialiste de la mort des étoiles, a fait une rencontre personnelle avec l'astronomie chinoise. Il est subjugué par le niveau de connaissance des scientifiques de l'Empire du Milieu il y a plus de 2000 ans. Jean-Marc Bonnet-Bideau a même retrouvé un document unique, une carte du 7e siècle. Y figurent 1300 étoiles, 257 constellations. Il s'agit de la plus ancienne carte du ciel connue à ce jour et elle se superpose parfaitement sur les cartes qui sont faites avec les techniques les plus modernes. Jean-Marc Bonnet-Bideau est l'auteur de 4000 ans d'astronomie chinoise. Le livre est paru chez Belin. Jean-Marc Bonnet-Bideau, votre spécialité, c'est la mort des étoiles. On en reparlera. Mais vous voyagez beaucoup, vous rentrez d'Afrique du Sud. Dites-nous ce que vous aimez voir quand vous regardez le ciel.
En fait, ce que j'aime regarder, c'est le repère que ça me fournit. C'est-à-dire, si on est assez attentif, on s'aperçoit que, bien sûr, la voûte céleste tourne. On peut en déduire l'heure, par exemple. On peut en déduire les directions géographiques. Donc, si on était livré un jour à nous-mêmes, et c'est le cas, par exemple, des navigateurs, encore certains maintenant font l'exercice, on peut se diriger complètement sur la Terre uniquement en regardant le ciel.
Est-ce que le ciel que vous regardez aujourd'hui est le même que celui que regardaient vos collègues astronomes d'il y a 1000 ans, 1500 ans ou 2000 ou 3000 ans quand on parle des astronomes chinois?
Oui, globalement, il est le même. Nous voyons les mêmes étoiles. Mais si on est attentif sur un long temps, on voit que ce ciel immuable est traversé par des accidents, par des événements inattendus. Et nous, en Europe, nous n'avons jamais observé ce genre de phénomène. Et la particularité, notamment de la Chine, qui est une autre culture, c'est d'avoir regardé justement tout ce qui changeait dans le ciel. Et il y a des petites choses qui changent, ou des grandes choses qui changent dans le ciel. Et ce sont ces variations qui finalement nous apprennent beaucoup plus de choses sur l'univers que ce qu'on voit en permanence.
Ils ont regardé, ils ont noté, et vous vous êtes intéressé à ce qu'ils avaient noté.
Pendant des périodes extrêmement longues, qui ont duré des milliers d'années, nous n'avons gardé aucun enregistrement de ce qui s'est passé dans le ciel. Et en Chine, au contraire, ils ont passé tous leurs soins, toute leur précision pour noter tout de façon très très précise et surtout le conserver et nous le transmettre encore aujourd'hui.
Jean-Marc Bonnet-Bideau, vous avez été amené à travailler en Chine et vous êtes tombé amoureux de l'astronomie chinoise. Comment s'est passée cette rencontre avec la Chine ?
J'ai été séduit, même peut-être subjugué, par la civilisation chinoise dans son ensemble, mais aussi dans leur démarche scientifique. Ce qui m'a subjugué, c'est à travers des textes que j'ai pu lire quand j'étais étudiant, puisque je travaille sur la mort des étoiles. Et donc cette mort des étoiles se traduit dans le ciel par des phénomènes extraordinaires. Vous pouvez imaginer, par exemple, une étoile qui devient aussi brillante qu'une pleine lune et qui reste dans le ciel pendant un mois. Eh bien, ces phénomènes que tout le monde a dû percevoir à l'échelle de la Terre, seuls les Chinois en ont gardé des comptes rendus très très précis. Et donc, petit à petit est venue à mon esprit l'idée que, mais qui étaient les gens qui observaient avant moi? Où étaient-ils? Comment raisonnaient-ils? Que faisaient-ils? Eh bien, quand je me suis attelé à ça, quand j'ai essayé de trouver ces réponses, je n'ai rien trouvé qui me renseignait en Europe sur ce qui s'était passé en Chine.
Donc vous êtes allé.
Et voilà. Parce que moi, ma démarche a toujours été ça. C'est-à-dire d'aller toujours sur place. Puisque j'étais conscient que nous sommes éduqués dans une culture qui est la nôtre, mais d'autres parties du monde ont développé d'autres cultures et il faut donc créer des ponts. Et ces ponts, ça passe toujours par une expérience personnelle. La lecture ne suffit pas. La Chine a été pendant très très longtemps fermée sur elle-même, pendant les années du maoïsme notamment. Et la Chine s'est ouverte à l'extérieur après le début des années 80. Et j'ai été au premier congrès d'astrophysique à Nankin en 1985, dont le sujet était la mort des étoiles.
Et là, vous avez rencontré d'autres astronomes, d'autres astrophysiciens?
Exactement. J'ai découvert, déjà, il y avait une petite amorce de recherche scientifique en Chine, et donc j'ai créé des liens avec des astronomes qui, très gentiment, ont accepté de me montrer les textes chinois qui concernaient l'explosion des étoiles, qui m'ont même introduit, puisque j'ai travaillé avec des grands professeurs chinois qui sont effectivement bien mieux connus en Chine qu'en Europe, qui avaient fait l'effort de recenser notamment, sur à peu près 3000 ans d'histoire chinoise, l'ensemble des enregistrements, des écrits qui concernaient l'explosion des étoiles. Ils étaient arrivés à faire un catalogue d'environ 80 objets qui auraient effectivement, seraient apparus dans le ciel et qui auraient été notés comme des explosions d'étoiles. Et j'ai travaillé à partir de ce catalogue avec ces historiens des sciences.
Vous avez notamment fréquenté un astronome, un astrophysicien très connu en Chine qui s'appelle Fang Lizhi.
Oui, qu'on dit en chinois Fang Lizhi, qui était un des grands astrophysiciens mondialement connus déjà dans les années 80.
D'abord, Pierre Veil, le portrait de Fang Lizhi, physicien de grand renom qui est un peu à Pékin, ce que Sakharov est à Moscou.
Professeur d'astrophysique de renommée internationale, Fang Lizhi, qui a 53 ans, a l'habitude d'être persécuté par les autorités chinoises. Le gouvernement lui reprochait d'avoir organisé des manifestations d'étudiants pour la démocratie. C'est un mauvais élément qui veut mettre la Chine sur la voie capitaliste, disait de lui Deng Xiaoping. Fang Lizhi a toujours dit haut et fort qu'il ne croyait pas au marxisme, critiquant le gouvernement chinois, mettant en cause la légitimité du parti communiste. Tout récemment, il demandait la libération de tous les prisonniers politiques en Chine et il avait apporté son soutien aux étudiants de la place Tiananmen, invitant les dirigeants du pays à respecter les droits fondamentaux communs à tous les pays, les droits de l'homme. On connaît la suite.
Une sacrée personnalité, un astrophysicien qui plaidait pour l'ouverture de la Chine vers le monde extérieur et qui a émigré aux États-Unis finalement dans les années 90.
Il se trouve que moi, mon séjour en Chine a été de 88 à 89, donc j'étais totalement au cœur des événements qui ont bouleversé la Chine à cette époque-là, et notamment en contact avec lui. Et je me rappelle avoir été passé une lettre à l'ambassade des États-Unis, puisqu'il s'est réfugié le 4 juin au matin après l'intervention de l'armée chinoise sur la place Tiananmen, à l'ambassade des États-Unis. Après, j'ai gardé quelques contacts avec lui. Il a dû émigrer avec l'obligation de ne se livrer à aucune activité politique, même aux États-Unis.
En tout cas, il fait partie de ceux qui vous ont ouvert les portes de l'astronomie chinoise sur des millénaires. Est-ce que c'est lui qui vous a un peu aidé à faire cette trouvaille incroyable de la première carte du ciel connue de l'humanité ?
Non, ça n'est pas lui, mais c'est au contraire un autre scientifique par rapport auquel j'ai un très grand respect, qui s'appelle Joseph Needham. Et Joseph Needham était un biologiste anglais qui a été, au moment de la guerre, en mission en Chine. Et il a fait une œuvre remarquable qui s'est étalée sur de nombreuses années, puisqu'elle a commencé en 55 et il a été terminé à sa mort. C'est un ouvrage où il a condensé toutes les informations que nous avions sur la science chinoise en mettant toutes les sources auxquelles il avait accès, toutes les sources de ses réflexions sont dans ses livres.
Il vous a donc mis sur une piste qui vous a amené à retrouver un mystérieux parchemin qui s'est révélé être la plus ancienne carte du ciel et elle date du 7e siècle.
Alors, cette carte, c'est extraordinaire. Elle figure dans ce fameux livre de Needham, la carte, soit une reproduction. Et à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à les connaissances astronomiques chinoises, je pensais qu'on avait énormément d'informations sur cette carte. Je me suis donc adressé à la British Library en leur demandant « Pouvez-vous m'envoyer une bibliographie concernant cette carte ?» Et ils m'ont répondu « Nous avons une légende de trois lignes qui a été faite par un individu à un moment donné. » Et donc, devant l'absence d'informations, nous nous sommes lancés dans l'étude de cette carte. Et cette carte a une histoire extraordinaire. C'est un manuscrit qui a été trouvé au début du XXe siècle, en 1902.
Par hasard.
Par hasard totalement, puisqu'elle était située dans un monastère bouddhiste sur les routes de la soie, aux confins de la Chine, près d'une ville qu'on appelle Dunhuang. Puis ensuite, à cause de la poussée de l'islam, a été fermée dans l'an 1000 et les moines ont dû se rapatrier vers le centre de la Chine, abandonnant sans doute assez rapidement ce monastère. Mais comme il y avait beaucoup de documents dans ce monastère, ils ont pris la précaution de l'emmurer dans une cave secrète. Et au début du XXe siècle, un moine qui s'est réintéressé à ce monastère a tapé par hasard contre un mur, ça sonnait creux, il a démoli la cloison et là, il est tombé sur un spectacle extraordinaire. 40 000 manuscrits, tous en rouleau, sur 2 ou 3 mètres de haut, dans une pièce qui était assez petite.
Et très bien conservée.
Et très bien conservée, parce que Dunhuang, c'est un désert, c'est le désert de Gobi.
Et au milieu de ces manuscrits, la carte.
Voilà, parce que la plupart des autres manuscrits sont des sutras, du bouddhisme, des choses comme ça. Et là, il y avait un document qui a échappé, dont l'importance a sans doute échappé aux sinologues, puisque c'était un document scientifique, c'est une carte du ciel. Et donc, elle a été rapatriée à d'autres chameaux par Aurel Stein, qui était un aventurier. C'était une mission que lui avait donnée le Bureau des Indes, rapporter ça au British Museum aux environs de 1906-1907, et elle a été mise dans des caves.
Et oubliée.
Et oubliée. Et donc cette carte, donc j'ai eu le bonheur et l'autorisation par la British Library de travailler sur cette carte et d'en faire l'étude.
Qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire cette carte? C'est sa précision?
Oui, je pense que c'est à notre grande surprise, parce que comme nous avons commencé à travailler sur cette carte, nous pensions que c'était comme un relevé manuel, si vous voulez, qu'on ferait de la sphère céleste. Alors, faut bien se rapporter à un problème extrêmement important qu'ont tous les astronomes quand ils parlent du ciel, qui veulent faire une carte. Il faut faire une projection. Une sphère, c'est pas un plan. Pour passer d'une sphère à un plan, il faut faire un travail mathématique, qui n'est pas forcément extrêmement compliqué, mais qui demande une rigueur. Et à notre grande surprise, cette carte obéit à une projection mathématique. Et ensuite, on s'est livré à un petit jeu de piste parce que de quand datait cette carte? Il a fallu explorer les quelques textes qui figuraient avec la carte. On a trouvé le nom d'un scientifique qui s'appelle Lin Chunfeng, qui était un mathématicien du début des Tang. Donc ça déjà nous a donné l'intervalle entre 600 et 900. Et ensuite, on s'est servi de quelque chose qui est extrêmement drôle en Chine, qu'on appelle les caractères tabous. Parce qu'il y avait une tradition en Chine que du vivant de l'empereur, lequel empereur avait un nom de famille, on ne puisse utiliser les caractères qui formaient le nom de l'empereur chinois. Et on a découvert des caractères tabous qui nous ont donné exactement le règne d'un empereur qui va de 648 à 685, et c'est ça notre vraie datation. On est sûr que la carte a été faite sous cet empereur-là, puisque dans la carte, un des caractères a été modifié par respect pour cet empereur régnant.
Grâce aux astronomes chinois, les astrophysiciens du XXIe siècle ont à leur disposition 20 siècles d'observation. En 1054, à l'époque des Capétiens et de Guillaume le Conquérant, les Chinois ont observé une explosion d'étoiles. Jour après jour, heure après heure, ils ont tout noté. Les scientifiques se servent encore aujourd'hui de ces documents.
You. wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream.
Wicked Game, c'était Chris Isaac.
Les Aventuriers sur France Inter.
Bao Shangshe, l'astrologue impérial. Il examine les étoiles du ciel et observe les changements et mouvements des planètes, du soleil et de la lune, afin d'étudier les changements du monde terrestre et distinguer le bien du mal. Il divise les territoires des 9 régions de l'Empire selon leurs relations avec les régions célestes. Tous les fiefs sont en relation avec des constellations distinctes et à partir de celles-ci, leur prospérité ou leur infortune peut être prédite.
Texte écrit au 4e siècle avant l'ère moderne, Jean-Marc Bonnet-Bideau, il y avait des astronomes en Chine au 4e siècle avant notre ère et bien avant même. Qui étaient ces astronomes ?
Oui, il y avait donc, et c'est une particularité de la Chine, il y a eu des astronomes depuis le début de l'histoire de la Chine jusqu'à la fin de l'histoire de la Chine. Et c'est une particularité unique au monde, puisque nous savons que nous avons des grandes civilisations astronomiques, mais elles n'ont duré que quelques siècles. Et là, par ce texte-là, on voit l'objet d'études qu'avaient ces astronomes. Ils étaient payés par les empereurs, c'était donc le CNRS de l'époque, si je puis dire. Ils étaient au sein de grands observatoires et ils observaient toutes les nuits, sans exception, à plusieurs équipes et rendaient compte ensuite de leurs observations. Et plusieurs équipes, ce n'était pas anodin. C'était pour qu'aucune n'invente des faits qui ne soient pas réels.
Alors qu'est-ce qu'ils regardaient, qu'est-ce qu'ils racontaient et à quoi ressemblaient ces observatoires ?
Ils devaient observer le ciel d'abord pour marquer les régularités, pour déterminer les calendriers, c'est-à-dire la rotation du ciel, l'écoulement des mois et des années, mais surtout pour déterminer tout ce qui pouvait se passer dans le ciel d'anormal. Et c'est ça qui a servi à l'astronomie chinoise de faire des découvertes fondamentales.
Donc ils observaient les comètes, les supernovas, les étoiles qui explosaient.
Voilà, les taches solaires, tous ces événements qui sont par ailleurs passés beaucoup inaperçus dans les autres cultures astronomiques.
Et ces événements sont très utiles aux astrophysiciens aujourd'hui.
Eh bien c'est ça qui est extraordinaire. C'est parce qu'en fait, en ayant collecté sur de si nombreuses années et de façon aussi méthodique, sans interruption, les seuls textes que nous utilisons encore en tant qu'astrophysiciens modernes pour corroborer nos théories sont des textes chinois. Les taches solaires, par exemple, que les Chinois ont observées, disons, à peu près depuis la période de la dynastie des Zhou, qui sont de l'ordre, les Zhou commencent à peu près 1000 ans avant notre ère et se terminent à peu près 200 ans avant notre ère. Et donc, ils observent les taches solaires à cette époque-là. Mais en fait, ils en font des comptes rendus. Ils disent quand est-ce qu'ils les observent, combien ils en observent. Et des astrophysiciens modernes, dans les années 80, se sont servis de ça pour montrer que le cycle solaire avait bien perduré sur un long temps. Parce qu'on l'observe, le cycle solaire, c'est Galilée qui a découvert en Europe les taches solaires. Vous voyez le décalage, hein, oui. Il y a plus de 2000 ans. Et on ne peut pas remonter en Europe au-delà de ça. Donc on pourrait s'attendre peut-être que le soleil n'avait pas de taches il y a 1000 ans. Eh bien les Chinois nous disent non seulement ils avaient des taches, mais on a pu reconstituer le cycle exact qui n'est pas tout à fait de 11 ans, comme on le dit parfois, mais qui varie de 9 ans à 12 ans dans son cycle. Le ciel et la terre n'étaient pas encore formés. Tout était vaste et immense, caverneux et informe. Ainsi fut le grand commencement. Le Tao commença par engendrer les vastités vides. Celles-ci engendrèrent l'espace-temps, lequel engendra les souffles. Ceux-ci eurent des contours et des limites. Ce qui était léger et limpide se dissipa et se dispersa pour constituer le ciel. Ce qui était lourd et boueux s'agglomera et se coagula pour constituer la terre.
Voilà quelle était la vision du ciel des Chinois au IIe siècle avant notre ère.
Il était déjà question de l'espace-temps, il y a plus de 2000 ans.
C'est un grand débat, puisque beaucoup de gens ne veulent pas vraiment croire que ce concept ait pu exister en Chine, puisque pour nous, il date de la révolution d'Einstein, du début du XXe siècle. En fait, les Chinois ont toujours fait un mariage entre l'espace et le temps, et ils ont décidé d'associer ces deux caractères, qui se disent en chinois Yu Zhou, et qui désignent l'univers dans son ensemble, le cosmos. Donc pour eux, c'était ça. Le cosmos, c'est l'association de l'espace et du temps. Et c'est daté dans ce texte que je viens de lire, qui est daté du IIe siècle avant notre ère.
Mais que disait-il de la Terre, du Soleil, de la Lune et des étoiles qu'il pouvait voir à l'œil nu ?
Alors ça, c'était aussi quelque chose d'intéressant. C'était des descriptions du monde. La première était Gaïtienne. C'est le dôme céleste. Alors là, la Terre est carrée, elle est plate et carrée, surmontée d'un bol qui représente le ciel et qui est donc finalement ce qui recouvre la Terre.
À partir de quand les Chinois ont-ils pensé que la Terre était ronde ?
Alors, on en arrive à la deuxième hypothèse sur la forme du monde. C'était Hun Tien, et c'était la sphère céleste. Et la sphère céleste disait que le ciel entourait toute la Terre qui, au centre, était comme le jaune de l'œuf. Et cette simple image a donné évidemment naissance à l'idée que les Chinois, déjà à l'époque, pouvaient considérer que la Terre était ronde.
Jean-Marc Bonnet-Bideau, vous l'avez expliqué, les astronomes chinois notaient tout. Ils ont noté un phénomène qui s'est passé en 1054. Et en Europe, ce phénomène, on ne l'a pas noté.
Et oui, c'est encore une énigme extraordinaire, puisque ce phénomène, il est donc très bien décrit dans un texte chinois, et il nous donne l'amplitude de la chose, c'est-à-dire une nouvelle étoile qui apparaît dans le ciel, qui est brillante comme Vénus, et qui reste visible pendant 23 jours. Donc ce phénomène...
De quoi s'agissait-il ?
Alors, on a mis beaucoup de temps à comprendre, parce que jusqu'au début, évidemment, du XXe siècle, pour nous, les étoiles étaient immuables et ne devaient jamais terminer. En fait, il s'agit donc de ces explosions d'étoiles, qui marque la fin d'une vie, en général d'une étoile beaucoup plus grosse que le Soleil. Ces étoiles ne terminent pas leur vie tranquillement, comme va le faire le Soleil, mais explosent. Et ce phénomène est à ce point essentiel dans l'astrophysique moderne, c'est qu'elle nous donne la clé qu'une étoile fabrique des éléments chimiques en son cœur, et qu'ensuite elle les disperse dans l'univers. Et si vous voyez une explosion d'étoiles à l'heure actuelle, notamment celle de 1054, vous voyez dans le ciel avec nos télescopes, nous observons une magnifique nébuleuse.
La
pleine
nébuleuse
de couleurs,
du crabe.
La nébuleuse du crabe. Et cette nébuleuse est comme une fleur qui s'ouvre, si vous voulez, et elle révèle ce qu'il y avait à l'intérieur de l'étoile, qui est maintenant dispersée. Et ces éléments chimiques, qui n'ont pas été formés dans le Big Bang, ne sont été formés que par l'étoile, ont donné ce que nous sommes aujourd'hui.
L'observation de 1054 a été consignée, commentée, vous avez retrouvé des textes. On en écoute un extrait.
嘉佑元年三月，四天见焉，克星末，克去之兆也。初，至和元年五月，辰出东方，首天观，昼见如太白，芒角四出。 色赤白，凡见23日。
C'est très joli à écouter, mais je n'ai pas compris grand-chose et vous allez nous traduire ce texte.
Voilà, je vais vous donc lire comment a été consignée cette observation. La première année du règne Tiayo, le troisième mois lunaire, le chef du bureau d'astronomie a dit « L'étoile invitée a disparu, ce qui est un présage du départ de l'hôte. » Plus tôt, durant le cinquième mois de la première année du règne Tihe, cette étoile était apparue à l'est, gardant Tianguan. Elle était visible le jour comme Vénus. Elle pointait ses rayons dans toutes les directions et sa couleur était rouge pâle. Elle est restée visible 23 jours.
On était donc en 1054 et à l'époque en Europe, c'était l'époque de Guillaume le Conquérant.
Voilà, c'est une époque relativement trouble en Europe, mais ce qui n'explique pas pourquoi on n'est pas noté cette explosion. Et là, je pense qu'il faut noter la différence des cultures entre la Chine et l'Europe. La Chine, donc, est commise à observer tout ce qui se change dans le ciel. Je n'ai pas signalé que c'était même le rôle principal de l'empereur. On appelle ça le Tianmin, c'est-à-dire le mandat céleste. L'empereur avait pour fonction, et c'était sa fonction principale, de garder l'harmonie entre le ciel et la terre. Le nom officiel de l'empereur, c'était le fils du ciel. Et il faisait l'intermédiaire entre les hommes et le ciel. Et cette fonction l'a amené donc à observer le ciel. Alors qu'en Europe, nous étions dans une configuration totalement différente, philosophiquement et idéologiquement, on peut le dire. C'est que, héritant des Grecs, l'idée que la sphère céleste était immuable et éternelle, la religion, effectivement, monothéiste, nous a imposé pendant un certain temps l'idée que, comme c'était créé par Dieu, rien ne devait changer dans le ciel. Donc, voyez, cette dichotomie entre les deux cultures montre combien est complémentaire pour nous la Chine par rapport aux observations astronomiques.
Puis, les jésuites se rendent en Chine au XVIIe siècle et là, se rendent compte des connaissances chinoises.
D'une part, ils ont été stupéfaits. Notamment Matteo Ricci, quand il est arrivé à Nankin, il pénètre pour la première fois en Chine, puisqu'il était à Macao pendant un certain temps. Matteo Ricci, c'est le premier jésuite qui soit rentré en Chine.
Donc là, on est au début du XVIIe.
Oui, c'est en 1600 qu'il arrive à Nankin. Il passe par hasard à l'observatoire de Nankin et il découvre ces instruments qui sont sur cette terrasse de l'observatoire. Et effectivement, il n'a jamais rien vu. Rien n'existe de telle sorte en Europe. Au plus haut de la montagne, on voit des machines de mathématiques faites de fonte qui, pour leur grandeur et beauté, méritent d'être vues et auxquelles, certes, nous n'avons jamais rien vu ni lu en Europe de semblable. Il y a près de 250 ans que ces instruments résistent aux pluies, neiges et autres injures de l'air, de telle sorte qu'ils n'ont rien perdu de leur premier lustre.
Ce texte a été écrit en 1616 et c'est l'histoire de l'expédition chrétienne au royaume de Chine, écrite donc par Matteo Ricci.
Voilà, et donc cette découverte des jésuites de la Chine, comme je vous le disais, a donné lieu à beaucoup de quiproquos et d'incompréhensions. Et l'une des plus importantes, sans doute, est à signaler parce qu'elle est liée à une des plus grandes inventions chinoises que l'astrophysique moderne doit donc aux Chinois, c'est l'invention de la monture du télescope moderne. Les Chinois, pour des raisons qui leur étaient propres, puisqu'ils surveillaient le pôle qui était l'équivalent de l'empereur céleste, l'empereur était sur terre le fils du ciel, et au ciel il y avait sa représentation sous forme du pôle autour duquel évidemment tournent toutes les étoiles, comme tout le monde doit tourner autour de l'empereur chinois. Et donc pour cette raison ils ont privilégié le pôle et l'équateur céleste, et donc on fait ce qu'on appelle nous en astrophysique moderne la monture équatoriale. Cette monture a été faite par un astronome chinois qui s'appelait Guo Shuding.
En quelle année?
Il a créé le premier observatoire de Pékin en 1279 et il y avait son instrument, qui était un instrument extrêmement dépouillé qui permettait effectivement de se déplacer dans le ciel en changeant une seule coordonnée. Et quand les jésuites arrivent en Chine, l'Europe ne connaît pas cette monture équatoriale. Et donc les jésuites font faire un retour en arrière à l'astronomie chinoise. Ils sont forts du fait qu'ils ont l'oreille de l'empereur, parce qu'ils ont gagné la confiance de l'empereur. Et donc il y a là l'exemple même de l'incompréhension totale et du manque d'ouverture peut-être aussi de ces hommes qui étaient certes courageux, mais qui étaient avant tout des missionnaires qui voulaient convaincre les Chinois. L'astronomie leur servait d'outil et non pas de fin en soi. C'est pour ça que finalement cette rencontre n'a pas donné lieu à une coopération plus avant entre l'Europe et la Chine.
Seul dans ma peau, sur la plage, je me la joue mélo, je drague les nuages. Seul dans ma fête, c'est dommage, et tout c'est tellement chouette. Tu mets tes cigarettes sur la plage, seul dans le bateau, je mets les voiles, mais solo je prends l'eau des matelots.
Solitaire.
L'amour en solitaire, c'était Juliette Armanet. Jean-Marc Bonnet-Bideau, astrophysicien au CEA, s'intéresse à la mort des étoiles car leur explosion est très riche d'enseignements. Jean-Marc Bonnet-Bideau n'hésite pas à rappeler que c'est de ces poussières dont nous sommes faits. Son rêve serait de lever un coin du voile sur la formation des étoiles et des planètes dont nous savons si peu. Il continue par ailleurs à fréquenter les scientifiques chinois qui s'intéressent de près à la Lune en ce moment. Et c'est à la fin de ce dernier chapitre que nous ouvrirons les portes de notre cabinet de curiosité.
Bonsoir. Depuis hier après-midi, mais on ne le sait que depuis 2 heures de l'après-midi aujourd'hui, il se passe quelque chose de nouveau dans l'espace. De la musique entoure notre Terre. Cette musique, c'est en somme le chant de victoire de la science chinoise qui a mis en orbite son premier satellite. C'est le thème du chant révolutionnaire maoïste Tung Fang Hung, dont voici d'ailleurs les paroles. L'Orient est rouge, le soleil se lève, Mao Tse-Tung apparaît à l'est, le parti communiste est comme le soleil, il illumine là où il brille, etc., etc. C'est à ma connaissance la première fois qu'un satellite quelconque signale son passage avec autre chose qu'un vulgaire bip-bip.
C'était en 1970, le premier satellite chinois a été lancé avec cette musique « L'Orient est rouge ».
Oui, c'est effectivement l'irruption de la Chine dans le programme spatial auquel on s'attendait, mais qui est effectivement venu sous les années Mao Tse-Tung, ce qui est un peu paradoxal puisque oui. C'est des années difficiles économiquement pour la Chine. Donc on entend effectivement ce qui était à l'époque Dong Fang Hong, c'est l'hymne sous la période Mao Tse-Tung qui s'appelait L'Orient est rouge. Et ça a marqué le début de programmes spatiaux. Et ce n'est que très très récemment qu'elle a réinvesti dans l'aventure spatiale énormément de moyens et surtout à la surprise de tous les spécialistes, un planning qui est tenu dans les différentes étapes que se sont fixées les Chinois pour explorer l'espace.
Oui, il y a eu des Chinois en orbite, un module lunaire s'est posé sur la Lune il n'y a pas si longtemps, en 2013.
Ben oui, ça c'est pour moi très très intéressant. Je trouve qu'on n'en a peut-être pas assez entendu parler. Les Chinois ont posé un astromobile, un rover dans le terme américain, sur la Lune. Mais non seulement ça, ils y ont déposé une base scientifique. Et le premier télescope qui ait jamais observé depuis la Lune est chinois. Il a fonctionné pendant à peu près 6 mois et il a fourni un catalogue d'étoiles en ultraviolet. Et c'est remarquable puisque jamais avant la Chine, quiconque n'avait posé un télescope sur la Lune.
Jean-Marc Bonnet-Bideau, vous continuez à aller en Chine? Vous continuez à fréquenter les astronomes chinois?
Oui, bien sûr, parce que on a des programmes. Vous savez que mon laboratoire, par exemple, va être sans doute un des premiers à mettre sur orbite un satellite franco-chinois qui s'appelle SWOM, qui est fait pour observer des explosions d'étoiles très très lointaines, cette fois-ci presque aux confins de l'univers. Donc nous sommes en plein dans une collaboration avec la Chine. La France a été justement une des premières nations à s'associer à la Chine pour la science spatiale chinoise scientifique.
Vous menez donc cette collaboration avec les Chinois pour observer les explosions d'étoiles, puisque c'est votre spécialité. C'est quoi une explosion d'étoiles et pourquoi une étoile explose?
Alors une étoile explose pour un principe assez simple à comprendre. Pour qu'elle reste en vie, c'est-à-dire qu'elle reste stable dans l'espace, vous savez c'est une énorme masse de gaz, eh bien il faut que ses couches soient soutenues par une pression phénoménale. Cette pression, c'est l'énergie qui est rayonnée au centre par ce qu'on appelle les réactions thermonucléaires. Donc une espèce de réaction entre des noyaux qui fusionnent, qui produisent énormément d'énergie, et ça soutient l'étoile. Mais tout combustible a sa fin. Et ces noyaux qui fusionnent, à un moment donné, il n'y en a plus assez pour produire suffisamment d'énergie. Vous coupez au centre de l'étoile l'énergie, immédiatement, les couches qui sont dessus, qui sont énormément massives, vont tomber vers le centre, elles vont chuter. Et ça va créer par un phénomène de rebond, donc c'est pas juste une explosion, c'est que ça commence à tomber et après ça compresse ce qui est au centre et ça rebondit et ça repart vers l'extérieur. C'est ça une explosion d'étoiles.
Qu'est-ce que ça vous apprend?
Ça apprend énormément de choses. D'abord, ce qu'il reste au centre est quelque chose d'extraordinaire. C'est plutôt même ça exactement mon sujet d'étude. Une étoile qui explose parfois se détruit complètement, mais dans une grande majorité des cas, compresse un petit objet au centre qui peut avoir la masse du Soleil et une dimension de l'ordre de 10 km. C'est-à-dire, vous voyez, vous comprimez le Soleil. Le Soleil fait 700 000 km, deux fois la distance Terre-Lune. Vous le compressez, vous le compressez, vous le compressez, jusqu'à le rentrer dans la surface de Paris. Et ça, c'est encore un astre qui existe dans l'univers. Ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Ces étoiles à neutrons tournent très très vite, mais jamais sur Terre nous n'aurons la possibilité de recréer cette matière, elle est tellement dense. Donc nous ne l'étudions que en observant ces étoiles qui restent, et notamment au centre même de ces nébuleuses. C'est pour ça qu'on recherche ces nébuleuses, parce qu'on va chercher au centre ce qui reste ou ce qui ne reste pas.
Et cela vous apprend beaucoup de choses sur l'univers? Cela vous apprend des choses sur la composition de l'univers?
Énormément, parce que les éléments chimiques, hormis l'hydrogène et l'hélium, donc vous voyez, ces deux seuls éléments sont produits dès le début de l'univers. Tout le reste est produit dans les étoiles. Tout, tout, tout. Le carbone, l'azote, l'or, l'argent, l'uranium, tout. Donc s'il n'y avait pas ces explosions, parce qu'il faut donc que les étoiles rejettent leurs éléments chimiques dans l'univers, nous ne serions pas là et toutes les planètes ne seraient pas là. Et même d'autres étoiles n'auraient peut-être pas pu se former. Parce qu'une explosion par un phénomène de vague entraîne une compression à côté qui va peut-être et sans doute former d'autres étoiles.
Donc le ciel est comme un laboratoire pour vous, mais vous m'avez expliqué aussi que depuis quelques années, vous essayez, dans votre laboratoire, de faire exploser des étoiles avec des lasers.
Alors, on n'en est pas encore à réussir à faire exploser des étoiles, mais néanmoins, les lasers de puissance, vous savez qu'on construit à l'heure actuelle d'énormes lasers, nous avons tout de suite compris que concentrer une énorme énergie dans un petit volume nous permettait de reconstituer en partie les conditions qui existent autour de ces étoiles denses qui résultent de l'explosion des étoiles.
Alors qu'est-ce que vous faites ?
Nous franchissons le mur du temps, parce qu'il est impossible de créer cette énergie sur un long temps. Un laser de puissance vous concentre une énergie faramineuse, on parle de mégajoules, on parle d'énergie aussi importante que cela, mais en une nanoseconde seulement. Nos instruments sont suffisamment rapides pour capter ce qui se passe en une nanoseconde. Et quand je dis que nous franchissons le mur du temps, c'est parce que nous trouvons autant d'informations dans une nanoseconde qu'on peut le trouver en 10 ans ou 20 ans. Parce que entre une nanoseconde et une seconde, il y a autant d'espace entre une seconde et 31 ans.
Ah oui.
Si nous comptions toutes les secondes dans 31 ans et que nous comptions toutes les nanosecondes dans une seconde, on aurait le même nombre. Donc ça vous explique la durée qui se passe entre la nanoseconde et la seconde. Donc nous explorons maintenant la nature à ces échelles de temps-là. On parle d'échelles de temps, c'est-à-dire ces unités de temps. Et le laser, malgré qu'il nous procure cette énergie en une nanoseconde seulement, c'est tout à fait suffisant pour étudier les phénomènes que nous voulons faire.
Qu'est-ce que vous avez déjà compris ?
Eh bien, on a compris que lorsque, par exemple, de la matière tombe sur une étoile, il se crée ce que nous appelons des instabilités. C'est-à-dire, l'instabilité, ça veut dire quelque chose qu'on n'a pas totalement compris. Si nous voulons comprendre vraiment la matière sous cette forme-là, la plus abondante dans l'univers, il faut arriver à faire des expériences en laboratoire. Et on utilise d'ailleurs une technique très amusante, parce que évidemment, il n'y a pas de rapport entre une nanoseconde et des millions d'années sur une étoile, entre un millimètre, on tire nos lasers sur une cible qui fait un millimètre, et des milliers de kilomètres ou des dizaines de milliers de kilomètres qui sont autour des étoiles. On utilise les principes de similitude. La similitude, ça vous dit qu'en mathématiques, quand vous arrivez à trouver qu'entre deux phénomènes, vous pouvez utiliser les mêmes équations, c'est gagné. Mais pour ça, il faut faire des rapports. Donc par exemple, vous diminuez par 1000 ou par 10 000 la dimension de l'objet. Mais en contrepartie, il faut diminuer par 1000 ou par 10 000 la durée. Et vous faites tous ces calculs-là et vous arrivez à faire un clone de votre objet dans l'espace, mais sous une autre forme complètement. On pourrait en donner un exemple que tout le monde connaît. On s'est déjà livré à ça depuis longtemps. C'est les essais qu'on fait en soufflerie pour tester les avions. Évidemment, on met pas un 747 dans une soufflerie. On met un petit modèle, mais il est calculé exactement en proportion.
À l'échelle,
de telle sorte que les mécanismes physiques, les équations qui vont décrire l'écoulement de l'air sont exactement les mêmes. Et c'est ça le principe qui sont derrière les expériences laser. C'est d'arriver à faire ça grâce aux mathématiques, en fait.
Et derrière tout ça, est-ce qu'il y a une question qui vous tarabuste ?
Alors, la question qui nous tarabuste, bien évidemment, tous, c'est plutôt du domaine de la cosmologie. Quelle est l'évolution de l'univers ? Si je voulais être sévère par rapport à ma discipline, et c'est plutôt enthousiasmant pour les jeunes astrophysiciens qui veulent faire de l'astrophysique, je pense qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment comment se forment les planètes. On ne sait pas vraiment comment se forment les étoiles. On ne sait pas vraiment comment se forment les galaxies. On ne sait pas vraiment comment s'est formé l'univers. Ce que nous apprend l'histoire des sciences, néanmoins, c'est que nous sommes condamnés à en donner une description, une description qui nous convient à un moment donné et que nous changerons demain de description. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de se confronter à cette réalité qui tout le temps va nous échapper, tout le temps.
Merci beaucoup Jean-Marc Bonnet-Bideau. Jean-Marc Bonnet-Bideau est l'auteur de 4000 ans d'astronomie chinoise paru chez Belin. Et nous allons maintenant visiter le cabinet de curiosité des aventuriers.
Les aventuriers. Fabienne Chauvière. Sur France Inter.
Le fossile d'un reptile marin très rare découvert dans le Maine-et-Loire. Le fossile d'un grand reptile vieux de 90 millions d'années vient d'être extrait d'une cave troglodyte près de Saumur. Il s'agit d'une découverte exceptionnelle. Le reptile vivait à l'époque des dinosaures. Ce spécimen angevin mesurait probablement 5 à 6 mètres de long et les scientifiques ne savaient pas que cette espèce s'était développée en Europe. Ils vont maintenant essayer de retracer son histoire et son évolution. Le fossile a été trouvé car des os tombait du plafond de la cave troglodyte. 90 millions d'années après sa mort, ce grand reptile pouvait être encore dangereux. Les plus grandes empreintes de dinosaures du monde. L'article est paru dans Science et Avenir. Des empreintes de dinosaures mesurant plus d'1,75 m de long ont été découvertes en Australie. C'est probablement un herbivore qui mesurait plus de 5,40 m de haut qui a laissé ses traces géantes il y a 140 millions d'années au nord-ouest du pays sur une autoroute à dinosaures où ont déambulé au moins 21 espèces différentes. Sachant que Nicole Kidman porte du 42 avec des pieds qui mesurent 27 cm, il aurait fallu une pointure 133 pour chausser ces dinosaures. De l'urine de vache pour soigner. En Inde, l'urine de vache se vend à prix d'or en ce moment. Au départ, c'était un petit groupe d'hindous qui, depuis des siècles, allait boire directement sous la vache ce liquide censé soigner le diabète, l'asthme ou même le cancer. La pratique est devenue à la mode et on trouve cette urine, pure ou sucrée, dans des bouteilles et des petits cartons. Des chercheurs de l'université de Junagadh, dans l'ouest de l'Inde, ont assuré avoir trouvé des particules d'or dans l'urine des vaches. Finalement, c'est peut-être l'or qui fait de l'effet, il va falloir revoir l'expression, c'est du pipi de chat. Des briques en terre martienne, plus solides que du béton. Coloniser la planète Mars est le rêve de plusieurs agences spatiales. Mais il est impossible d'emporter de quoi construire des bâtiments. Alors des scientifiques de l'Université de Californie ont fabriqué des briques en terre martienne artificielle de la même composition que celle constatée par le rover Curiosity qui arpente le sol de la planète rouge depuis 2012. Le procédé n'implique ni cuisson ni liant. Il suffit juste de comprimer la terre et le résultat est très solide. Reste à savoir ce que donneront ces briques en vrai sur Mars. Et on imagine déjà le titre de la série télé 3D en 2040, La petite maison sur Mars. Cette émission est terminée. Pour retrouver les livres dont nous parlons, les références des disques que vous entendez ou des liens en rapport avec notre cabinet de curiosité, le bon réflexe, vous le savez, c'est la page des aventuriers sur le site de France Inter où nous sommes en libre écoute 24 heures sur 24. Merci à Coy Nguyen qui réalise l'émission avec Marie-Claire Matout cette semaine. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour la programmation musicale et merci à Arnaud Caillé à la technique. Les aventuriers seront de retour dimanche et votre prochain rendez-vous après les informations, ce sera L'Esprit Inter de Mathias Deguel.